tous les matins, c'est la même chose. Je me lève à 5 heures pour faire des vaches. Le papa est déjà debout dehors. Comme un rituel, il monte sur la petite colline derrière la maison. Reste là à attendre 1 heure, parfois plus, pendant que les ouvriers et moi-même, nous nous occupons des bêtes. Il passe souvent, il pleure, ou encore nuit, il guette, les yeux fixés vers l'horizon, dans la grande ville. Puis il descend avec sa canne et nous rejoint triste comme à l'habitude. Il ne prononce pas un mot, perdu dans ses pensées. Personne n'ose l'interrompre, de peur de le déranger. Quand il revient à lui, c'est pour ordonner le travail à faire. Il dit à l'un, fais ceci, et puis à l'autre, fais cela. Il est à la traite chaque matin. Il est bête à aller au champ. Le fourrage à leur donner l'hiver. Le nettoyage des tables. Il faut aussi s'occuper des poules, des cochons, labourer les champs, semer les graines en saison pour récolter les céréales, planter la vigne, ramasser le raisin. Et ce, quel que soit le temps, pas un jour de repos, pas de vacances, pas de loisirs, pas de remerciements, ni de prix de rejoins et de nos services. Depuis que papa est renfermé sur lui-même, il n'y a plus de fête à la maison. Plus de repas d'année. Cela paraîtrait indécent. Et personne d'ailleurs ne se permettrait de le demander. Les ouvriers au moins sont payés. Mais moi, je ne suis que le fils, l'héritier du trône. Mais en attendant, je me tue à la tâche. Et les années passent. Cela fait 10 ans que cela dure. La routine, une tristesse infinie. Un jour que je parlais à papa et qu'il était perdu dans ses pensées, je me suis mise en colère, agacée de ce qu'il ne répondait pas. Arrête, papa, de te demander là inutilement. Tu vois bien qu'il ne reviendra pas. Il était un peu heureux, la vie. Il a voulu vivre sa vie, sa jeunesse, avec tant d'argent. Les copains, les filles, rappelle-toi, on se l'a jasé dans le village, après qu'il soit parti. On disait qu'il avait les filles qui volaient, les amis douteux, les repas mondains, les belles voitures, les grands trains, quoi. Depuis que tu n'as pas remis les pieds au village, la honte, tu la portes tous les jours. Tu ne travailles plus à terre. Car vis-tu, elle est plus propre que toi. Quand tu es pas là, il nous a bel et bien oubliés. Il a vu se monter une affaire juteuse. Il va s'en mettre plein les poches. On va savoir si c'est honnêtement bien et moins sûr. Crois-tu qu'ils se sont mis en peine de la souffrance qu'ils nous ont infligée, des larmes de maman qui ont été creusées sur sa peau? Et quand elle est morte de chagrin, la peau nous revient entièrement? Non. Il nous laisse croupir dans la honte, l'amertume et le chagrin. Qu'attends-tu encore de lui? Il a voulu vivre sa vie sans nous. Qui reste où il est? Il n'est plus mon frère. Papa m'a regardé attristé, partagé entre une évidence à son espoir. Il a peut-être raison, a-t-il dit, que je ne peux pas. Comment tirer un trait sur toutes ces années de bonheur où nous l'avons vu grandir, jouer avec les bêtes, courir dans les champs, se battre avec toi, pour savoir qui était le plus fort. Nous l'avons porté dans une terre en peine, encouragé par le prix et les genoux. Moi-même, j'ai été son tuteur dans le mauvais jour. Souviens-toi du jour où tu l'as sauvé de la mort alors qu'il se noyait dans la rivière. Rappelle-toi les larmes de bonheur. Il a été emporté malgré tout ton frère, de la même chair que toi et moi. Papa, sais-tu, je suis allé pleurer. Parfois, en effet, je pense à ce frère que j'aimais tant, avec qui j'avais partagé tant de joie et de jeu. Il était une nature leader, décideur,
et carrément.
C'est aujourd'hui qu'il prenait les initiatives, qui a rompu les obstacles, qui bravait les adversaires. Je l'admirais et en même temps je ne jalousais. Moi qui suis son aîné. Papa a toujours eu un faible pour une son petit, comme il l'appelait. Il avait pourtant enseigné certaines valeurs, comme le bien, la famille. Mais il n'en faisait qu'à sa tête. Il avait pourtant un bon fond. Il prenait la défense du faible, il savait être généreux, il était travailleur. Mais il a grandi trop vite. Son cœur avait de grandes ambitions. Il voulait sortir du train-train, du train quotidien, se prouver qu'il pouvait être autre chose qu'un simple paysan. Il voulait gagner de l'argent, faire son trou dans le milieu des affaires. Il voulait aussi séduire, l'un aux autres, déjà ici à la maison, s'entourer de nombreux amis et surtout de femmes. Que s'est-il passé dans sa tête ce matin-là pour qu'il vienne briser le cœur du père en réclamant sa part de l'épargne? Papa est resté muet, incrédule. Il ne comprenait pas pourquoi. N'était-il pas bien à la maison, avec tout ce qu'il aimait? N'était-il pas un travail, et tout ce dont il avait besoin? Il a répondu qu'il voulait faire sa vie, qu'il étouffait ici. Il voulait vivre par lui-même, faire son chemin. Pour montrer sa détermination, il enleva la bague qu'il avait du doigt, celle que papa lui avait offerte pour ses 18 ans. Et il lui a rendu. Papa l'a regardé un moment, en voyant qu'il ne pouvait l'en dissuader. Il est allé chercher son bien et lui a donné, en disant simplement, n'oublie pas que je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Son fils est parti, visiblement gêné, mais rien ne l'aurait arrêté. Depuis, comme un rituel, papa monte sur la colline et scrute l'horizon. Des fois, j'ai envie ce frère, avec son audace, son courage pour avoir fait cela. Il a pris sa liberté, son autonomie, il n'est plus aux ordres d'un chef, ni soumis à des durateurs. Il ne doit pas être obligé de se lever tôt pour garder les bêtes, ni piétiner la boue, ni manger des navets tous les jours. C'est sûr. Il doit avoir de beaux habits, une belle maison, plein d'amis. Quelle chance il doit avoir. La belle vie et le plaisir avec. J'ai parfois envie de faire comme lui. De prendre des clics et des claques, de voler mes propres ailes, respirer un air frais, et non la puanteur des étables. Mais il n'en a pas le courage à cause de papa. Il mourrait le chagrin sur moi. Et puis je n'ai pas son caractère pour arriver et me découvrir tout seul. J'ai toujours été aux ordres, moi. Que ferais-je dans la grande ville? Quand aller voir rejoindre mon frère, pas question. Il sera encore mon chef. Non, ma vie est ici. Bien qu'elle soit sans bonheur, je suis destiné à rester aux côtés de papa dans ces deux jours. jusqu'à ce qu'il parte. Un matin, je dis, papa, levez les bras au ciel, sur la colline, lâchez sa canne, et courir sur le sentier aussi vite qu'il pouvait. Il agitait ses mains et criait, venez vite, venez vite. Tout le monde est accouru vers lui. Il se dirigeait vers le long chemin qui mène à la maison, puis il a ralenti. Il s'est arrêté brusquement. En face de lui, il y avait un homme maigre, sale, fatigué, furent. La basse s'est avancée lentement. L'homme lui a dit, je reviens à la maison. J'ai mal agi contre le ciel et contre toi. Ton fils n'est plus. Traite-moi comme le dernier des ouvriers. Interloqué et incrédule, je n'en revenais pas. C'était mon frère. Enfin, c'était mon respect. Comment osait-il se présenter ici après tant d'années? Toujours la même audace, le même sans-gêne, il me surprendra toujours. Et plus encore, la réaction du père. Il l'a entouré de ses bras en pleurant. Puis il s'est retourné vers lui en disant, préparez-lui un bon vin et de beaux habits. Apportez la bague qu'il a laissée en partant et des bottes à la place de ses sandales. Préparez le beau gras et tuez-le, puis mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu. Il était perdu et il est retrouvé. L'émotion et la colère sont montées en moi et j'ai crié, comment? Ça fait 20 ans que je suis avec toi à te servir fidèlement, mais jamais je n'ai désobéi à tes ordres. J'ai toujours rempli mes tâches. Je n'ai jamais pris de repos, jamais exigé quoi que ce soit. Et tu ne m'as jamais offert un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et pour lui qui a mangé ton pain avec des prostituées, que tu le voudras, qu'il retourne d'où il vient. Papa m'a regardé d'un air attristé, plein de tendresse et de compréhension, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit le cœur rempli d'un bonheur ineffable. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il faut même se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et est revenu à la vie. Des larmes me sont montées aux yeux. Je me suis tourné vers ton frère et je l'ai embrassé. Alors je ne sais pas à vous, mais moi je crois que j'aurais agi comme le frère. Et mon cadet avait eu une telle attitude envers notre père. Un tel égoïsme, une telle ingratitude m'aurait indigné. Comment? Voilà un jeune qui a tout ce qu'il lui faut. La nourriture, le vêtement, le logis, richesse, le travail, et même des serviteurs, l'amour de ses parents, et à qui rien n'est refusé, et qui n'est toujours pas satisfait. Il réclame la liberté comme s'il avait été esclave. Il réclame son indépendance comme s'il avait été sous tutelle. Il réclame son bien comme s'il était dans la disette. A-t-il seulement pensé au chagrin qu'il causerait? A-t-il songé à la perte matérielle qu'il entraînerait par son absence? Et à la surcharge de travail pour ce trimestre? A-t-il pensé à l'exemple qu'il allait donner aux ouvriers qui pourraient maintenant réclamer leur part? Non. Il n'a pensé qu'à lui-même et à son petit bonheur. J'aurais vu moi aussi de l'amertume de notre vie. J'aurais estimé qu'il avait une dette à payer, celle de l'autre homme qu'il aurait fait subir à tous, celle du fardeau dont il nous aurait chargé, celle du malheur dont il nous aurait accablé. Je lui aurais dit, si tu reviens, tu dois rembourser les biens que tu as gaspillés. Tu dois réparer le mal que tu as fait à ta famille pour que nous puissions sortir de nouveau sans honte. Tu dois demander pardon à tout le monde. Tu as pris des aises à notre préjudice. Tu nous as laissés dans le déshonneur. Tu nous as humiliés. Maintenant, c'est à toi de t'humilier et de réparer. Crois-tu que tu devrais, que tu allais revenir avec tous les égards? Nous t'aurions accueilli les bras ouverts pour que tu recommences encore avec nos propres biens. Crois-tu que nous aurions effacé d'entrer comme ça, ta mauvaise conscience pour te donner une impunité? S'il y avait une justice, il faut qu'elle rappelle aux méchants le poids de sa méchanceté, afin qu'il en éprouve du remords et de la honte. Oui, je crois que j'aurais agi avec cette amertume, après tant d'années de souffrance à cause d'un caprice d'un jeune insensé. Tout au moins, je crois que j'aurais rayé de ma carte ce frère indigne. Je l'aurais traité par l'ignorance, la distance salutaire. Plus de contact, ça vaut mieux pour tout le monde. Et si en plus j'avais envié, comme le frère avait le bonheur supposé du cadet, j'aurais été hypocrite, car j'aurais toléré un acte que je réprouve par ailleurs, qui m'aurait donné satisfaction. Le cœur de l'homme est torturé par le surplus, car il condamne sur autrui ce qu'il approuve de lui-même. Alors voilà, Dieu n'est pas homme. Et c'est tant mieux. Car ces sentiments ne sont pas guidés par la rancune ou le désir de vengeance, mais par la miséricorde. La miséricorde est une vertu divine qui apporte le pardon à celui qui ne le mérite pas. Dieu a eu à cœur notre misère. Il a vu avec les mêmes yeux que le Père de l'enfant prodigue. Il a senti son cœur battre, son âme tressaillir, quand le péché a souillé la nôtre. Le Père de l'enfant n'a pas écouté sa tristesse, ni ses souffrances, ni son chagrin. Il n'a pas calculé ses pertes, il n'a pas regardé à son enfant aux yeux des autres. Il a vu en un instant son fils, amaigri, fatigué, misérable, son fils lui revenait. Le fruit de ses entrailles lui revenait maintenant en profondeur. Il était, comme le dit l'apôtre Paul, revêtu d'entrailles de miséricorde. Un cœur de père est certes plus sensible qu'un cœur de frère. Un cœur de mère aussi, telle cette histoire vraie. Une fille volage et orgueilleuse a voulu vivre sa vie malgré les appels à la prudence de sa mère. Elle a vécu, elle était jeune et belle, elle avait rencontré un homme charmant. Cet homme ne plaisait pas à sa mère, il lui paraissait louche. Et la fille était aveuglée. Elle est partie avec cet homme sans laisser d'adresse. Quelques mois plus tard, elle était danseuse dans un bar à prostituer. Son ami était un proxénète. Sa vie était devenue un enfer, remplie de chagrin et de remords. Mais comment pourrait-elle retourner chez sa mère après, quand elle a dû souffrir? Une nuit, alors qu'elle sortait de son bar, elle fut arrêtée par une affiche. Le visage de la personne sur l'affiche lui semblait familier. En s'approchant, elle eut un terrible choc. Et elle fut saisie par l'émotion. C'était le visage de sa mère. Guérie par la douleur, et avec ses mots en bas de l'affiche qu'elle avait mis, ces affiches qu'elle avait mis dans toute la ville, reviens à la maison, maman t'attend. Sa mère avait inondé la ville de ses affiches. Et elle fondit en larmes, donc la fille fondit en larmes et rentra aussitôt chez sa mère. Elle avait trouvé le chemin du pardon et ainsi celui de la paix. Ainsi est Dieu à notre garde. C'est son cœur qui a parlé pour nous et non sa justice. Celle-ci, il l'a exercée sur lui-même en Jésus-Christ, sur la croix. Pour nous, c'est un Père qui a attendu, souvent longtemps d'ailleurs, et qui peut-être attend encore pour certains d'entre nous. Il attend attristé par l'indifférence ou l'égoïsme de ses enfants éloignés. Mais il est prêt à ouvrir ses bras de miséricorde. Il ne se lasse pas de pardonner. En nous revenant à lui, sa joie efface en un instant de sa tristesse. Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Quel que soit notre passé, notre souillure, il nous invite à revenir à lui, car il nous attend. Il y en a un qui accuse, qui rejette l'homme, qui a péché, qui endurcit son cœur, qui avilit et fait souffrir, c'est Satan. Pour lui, point de salut, point de pardon. Il faut payer, il faut expirer. Expirer. Mais Dieu sait que le péché est ce qui fait souffrir, contrairement à la jouissance apparente qu'il donne. Le péché rend esclave qui s'y soumet, mais Jésus seul peut nous en affranchir. Il suffit pour l'homme comme l'enfant prodigue de saisir dans son âme ce sentiment de perdition. Rien ne peut faire davantage plaisir à Dieu que cette démarche de repentance et sans prétention. Le fils cadet n'a pas ramené l'argent de l'héritage, ni les honneurs. Il est venu tel qu'il était, avec toute sa misère, sa pauvreté. C'est tout ce qui est nécessaire pour Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. Ni nos biens, ni nos valeurs, ni notre filiation, ni nos sacrifices, ni nos œuvres. C'est lui qui nous lavera, qui nous changera, qui nous nourrira. Sa maison sera la nôtre. Son bonheur sera le nôtre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, parfois, parents que vous êtes, dans la tristesse, parce que peut-être certains de vos enfants sont dans la rébellion, dans l'indifférence, dans les problèmes inexplicables, qui ne nous écoutent pas, ils n'en font pas leur tête, rappelons-nous le père de l'enfant prodigue. Rappelons-nous sa compassion au-delà du pensable. Rappelons-nous sa joie pour le retour en arrière. Et sachons apprécier ces petits retours, une prise de conscience de nos enfants qui trouvent tant de mal à faire leur place dans ce monde incapable, implacable et si dur. Ayons cette attitude d'attente, de prière, de compassion et d'indulgence pour leurs erreurs. Ne les jugeons pas trop vite, mais recevons-les avec tout l'amour qui seul peut les faire changer d'attitude. En ce temps où ils peuvent nous sembler lointains, il n'y a pas de place pour l'accusation, mais seulement pour l'accueil. Nous avons été faits enfants de Dieu pour aimer et aimer encore, comme notre Père nous a aimés en livrant son fils Jésus sur la croix. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le fils aîné était un pécheur ignorant. Le fils cadet, un pécheur insouciant. Mais tous les deux avaient besoin de repentance et de revenir vers le Père aimant. Comme nous aussi, nous avons besoin de revenir à ce Père, celui qui nous dit encore et encore aujourd'hui, je t'attends.